Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour, dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais revenir cette fois-ci un peu de façon originale dans ce studio sur la situation Palestine, originale puisque j'ai la chance d'avoir en face de moi Salwa qui est franco-syrienne, qui a vécu auprès des Palestiniens, notamment à Damas, et qui est de profession traductrice, interprète, donc autant dire qu'elle en connaît un rayon, en tout cas, plus que nous autres. Et donc, bonjour Salwa.
Bonjour.
Donc, première question pour Salwa. On a l'impression, quand on écoute les grands médias, que finalement l'histoire aurait commencé le 7 octobre avec cette incursion militaire du Hamas en Israël, mais en fin de compte, avant, qu'est-ce qui se passait ? Est-ce que c'était la paix ? Question innocente, est-ce que tout allait bien ?
Le gouvernement israélien voudrait que ça ait commencé le 7 octobre. En tout cas, c'est son discours depuis le début. Ça fait partie de sa propagande pour justifier sa guerre sur Gaza depuis le 7 octobre. Il veut faire oublier que Gaza est occupée. Il veut faire oublier les conditions de vie des Palestiniens dans toute la Palestine. Et ça n'a évidemment pas commencé le 7 octobre 2023, même si le 7 octobre, il y a quelque chose de nouveau qui a commencé.
Donc on voit bien qu'il faut aller un peu plus loin. Et est-ce qu'on peut dire qu'avant le 7 octobre, on a parlé beaucoup dans les médias de ces massacres, mais est-ce qu'il y a eu aussi des morts ? Est-ce qu'on n'a pas eu aussi des problèmes dans les camps de réfugiés palestiniens ? Est-ce qu'on n'a pas eu aussi des problèmes de massacres pendant les intifadas ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet avant précisément 7 octobre ?
Alors, les tueries de Palestiniens par Israël, par l'armée d'Israël, a commencé juste avant la création de l'État d'Israël, donc par des milices qui n'étaient pas encore l'armée israélienne. C'était en 1947, quand les migrants juifs sont arrivés pour réaliser un projet sioniste, colonial, de créer l'État d'Israël. Et les massacres dans les villages palestiniens et la chasse aux Palestiniens ont commencé à ce moment-là. Ah. Et depuis, ça n'a jamais cessé. Et les morts sont plus ou moins importants. Les conditions de vie des Palestiniens sont terribles, plus ou moins selon les périodes, selon les gouvernements israéliens. Mais ça n'a jamais cessé.
Ça n'a jamais cessé et on peut peut-être dire à cet instant un petit peu la position de l'ONU sur le sujet. Puis qu'est-ce qui devait se passer logiquement entre en 1947 et 48 dans cette partie du monde ? C'était quoi la décision de l'ONU ?
La décision de l'ONU à ce moment-là, au moment de la création de l'État d'Israël, en fait ça a été le grand choc des Palestiniens, donc les autochtones de Palestine, ça a été que l'ONU, fraîchement créée, a justifié, reconnu un État israélien. Et ça a été un très grand choc, en même temps que les tueries et le début de l'épuration ethnique de la Palestine. Après ça, les Palestiniens ont lutté pour sauver quelques droits, retrouver leurs droits. Et se sont tournés vers le droit international malgré cette grosse injustice du début.
Est-ce qu'il n'y avait pas non plus une résolution de l'ONU pour ce qui concernait la Palestine qu'on attend toujours ?
Alors, les résolutions de l'ONU vont toutes dans le sens d'un partage du territoire entre le projet colonial et les autochtones qui sont censés ne pas se mélanger.
D'accord, donc la décision de l'ONU, c'était bien deux pays entre guillemets séparés, mais une résolution qu'on oublie un peu trop quand même, c'est le fait qu'il doit y avoir logiquement un État palestinien aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Il y a cette idée qui est admise par la plupart des pays du monde, c'est que l'État palestinien a le droit d'exister.
Oui, les trois quarts des pays du monde qui reconnaissent un État palestinien et la France qui regarde ailleurs, la France et quelques autres pays occidentaux, qui regarde ailleurs depuis fort longtemps. Alors j'en viens plus précisément à l'actualité, on parle beaucoup du Hamas, mais avant on parlait beaucoup de l'OLP. Mais c'est quoi le Hamas? Ça sort d'un chapeau, c'est quoi?
Alors, le Hamas est un mouvement de résistance armée qui est né après la première intifada. Donc, 1987, qui a regroupé des gens déçus de résultats de la lutte non armée. Et qui a rallié à lui. Alors, c'est un mouvement religieux, donc de résistance pour les droits des Palestiniens, mais religieux, donc à l'inverse des mouvements de gauche qui existaient jusque-là et qui existent toujours, mais qui sont moins puissants aujourd'hui.
Alors, on a vu dans la presse, notamment au journal Le Monde, mais d'autres aussi, hein, des déclarations de Netanyahou qui datent de quelques années, qui disaient qu'il fallait aider le Hamas. C'était la meilleure façon de mettre en difficulté l'autorité palestinienne. Donc, on peut dire que de façon un peu paradoxale, le Hamas, pour le prendre un peu de façon caricaturale, mais néanmoins bien réelle, a été sponsorisé par Netanyahou, hein, c'est lui-même qui l'explique dans une déclaration publique, pour précisément mettre en difficulté l'autorité palestinienne.
Oui, à l'époque, il était dans l'intérêt de Netanyahou, donc de la tendance dure du sionisme, d'avoir en face de lui des mouvements de résistance qui ne reconnaissent pas la partition de la Palestine, qui ne veulent pas d'un bout du territoire originel des Palestiniens. Donc ça l'arrangeait bien puisqu'il n'avait pas du tout abandonné l'idée de s'étendre sur tout le territoire de la Palestine et au-delà. Et c'est toujours le cas.
Alors c'est toujours le cas, d'autant plus aujourd'hui qu'on a un gouvernement très particulier en Israël. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, puisqu'il y a eu aussi des changements de ce côté-là, du côté du pouvoir en place en Israël aujourd'hui, c'est quoi?
Alors on a un gouvernement extrémiste, on va dire, composé de différents partis vraiment... on peut dire racistes, la plupart sont religieux extrémistes, donc pour un judaïsme vraiment intégriste, mais surtout sioniste jusqu'au boutiste, quoi. C'est-à-dire on veut toute la terre biblique.
Alors, pour les gens qui ne connaissent pas bien les définitions, on aurait peut-être dû le faire au début, c'est quoi le sionisme?
Alors le sionisme, c'est un mouvement colonialiste, c'est une idée à la base que les Juifs doivent avoir un État, donc les Juifs du monde, dans toute leur diversité, dans toute leur culture, il leur faut un État. Et donc il y a cette idée qui en est une. L'autre, c'est que on doit s'installer en Palestine, qui est cité dans des textes bibliques très anciens.
Voilà, donc le sionisme, hein, qu'on ne se méprenne pas avec l'antisémitisme, hein, ça n'a rien à voir, c'est une vision coloniale finalement, une interprétation de la religion pour dire que le territoire, par la volonté de Dieu, devrait appartenir aux Juifs. C'est ça le sionisme, hein, qui est bien à distinguer, comme tu l'as dit d'ailleurs, de la religion, puisque c'est une interprétation en plus très récente des textes religieux qui n'est heureusement pas partagée par tous. Alors là, on a vu un petit peu le contexte, et puis j'en viens à ce qu'on appelle la guerre dans la bande de Gaza. Ça me déplaît un petit peu, moi, puisqu'on n'a pas véritablement l'impression que c'est une guerre. Il y a des caractéristiques très particulières, notamment le rôle de la presse et le rôle de l'ONU. Est-ce qu'on peut vraiment parler de guerre ou est-ce qu'on doit parler d'autre chose par rapport à ce qui se passe dans la bande de Gaza, notamment avec plus de 100 représentants de l'ONU qui sont morts dans la bande de Gaza, une chose qu'on n'avait jamais vue en fait.
Alors, dans la bande de Gaza, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une attaque de l'armée israélienne contre la population de cette zone qu'Israël occupe. Légalement, ça s'appelle une occupation, même si dans les faits, depuis plusieurs années, l'armée n'est pas dans cette espèce de camp très grand qui est sous siège, en fait. Et que de temps en temps, Israël bombarde, de temps en temps, il y a des petites incursions. Le résultat, c'est que l'armée d'occupation bombarde la population qui est à l'intérieur de manière extrêmement violente, avec le projet de tuer le plus de monde possible, mais aussi de terroriser et de détruire les possibilités de vie qui sont déjà mauvaises, mais de les détruire jusqu'au point où on pourrait les faire partir tout simplement et se débarrasser de ce problème d'une population qu'on occupe et qui nous embête parce qu'elle résiste.
Voilà, donc c'est pas une guerre conventionnelle hein, puisqu'on est sous avec des bombardements massifs, plus de 70 morts parmi les journalistes, ce qui veut dire que grosso modo les journalistes ne peuvent pas exercer et d'ailleurs ils sont interdits de pénétrer sur le territoire, hein, c'est un siège.
Alors et... les chiffres pardon de oui. des journalistes les chiffres se montent plutôt à 119 jusqu'à hier.
Oui.
Les chiffres divergent selon le fait qu'on reconnaisse ou pas certains journalistes qui sont en freelance et qui sont peut-être pas adhérents de
oui.
voilà, certaines...
Et selon qu'on compte aussi les caméramans et les assistants, mais de toute façon, plus de 100 journalistes et assistants de mort... Plus de 100 représentants de l'ONU de morts sur un territoire qui est en fin de compte minuscule, hein, puisque en surface c'est un dixième de la surface du Tarn et Garonne. Donc on voit, avec une population énorme, on voit que le terme de génocide est posé. On va y revenir tout à l'heure. Mais on est véritablement dans une destruction massive qui a peu sur le plan technique... qui a peu de rapport avec cet argument d'éradiquer le Hamas. Est-ce que c'est efficace de bombarder massivement la population civile ou est-ce que c'est un prétexte ? Et personnellement, c'est la question que je me pose.
Oui, c'est évidemment un prétexte, même si Israël veut éradiquer toute résistance, qu'elle soit le Hamas ou d'autres, puisque ce n'est pas que le Hamas qui a attaqué le 7 octobre, mais différents groupes résistants de tendance... les deux plus grands sont de tendance religieuse conservatrice, mais il y en a d'autres qui sont de gauche. Alors, ils sont très peu représentés, mais ils sont là quand même. Et on tue la population et on empêche tout ce qui peut permettre à une population de vivre. C'est pour ça qu'il y a un très grand nombre de médecins et d'infirmiers, de médecins et d'infirmières et infirmiers qui sont morts, pas loin de 400, qui sont systématiquement arrêtés, torturés quand l'armée arrive jusqu'à ces hôpitaux, jusqu'au... Et l'éducation. Tout ce qui est structure éducative, qui ont systématiquement été détruites. Trois universités qui ont été détruites, non seulement bombardées, mais rasées, il ne reste plus rien. Tout ce qui permet la vie au quotidien et la résistance par l'enseignement, la culture. J'ai plein d'exemples comme ça.
Et sans compter, mais vous le savez sans doute, hein, la coupure de l'eau et l'électricité depuis plusieurs mois maintenant, hein, et de l'aide alimentaire qui, on peut dire qu'il n'arrive pas, puisque le peu de camions qui passent ne correspondent pas aux nécessités pour les 2,5 millions d'habitants. Alors on parle beaucoup de la bande de Gaza, mais il y a aussi tout le reste de la Palestine, qu'on appelle aussi Cisjordanie occupée. Et là, on a l'impression que les colons se lâchent. Est-ce que tu as quelques précisons, y compris à Jérusalem-Est. Est-ce que tu as quelques précisions à nous donner sur ce qu'est-ce qui se passe dans le reste de la Palestine, finalement, en ce moment ?
L'attaque contre la Cisjordanie, en fait, est permanente depuis plusieurs décennies. Cette année, elle avait beaucoup augmenté depuis janvier 2023 et c'était le prétexte des groupes qui ont attaqué le 7 octobre. C'était pour stopper en réponse aux massacres qui ont lieu en Cisjordanie et aux attaques à Jérusalem-Est sur la mosquée Al-Aqsa. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est tous les soirs, l'armée entre dans des villages, dans des quartiers, dans des camps de réfugiés de Cisjordanie, tue des personnes, des enfants, des jeunes, et arrête énormément de gens, beaucoup, beaucoup d'arrestations. Ils installent des barrières de fer partout, déjà il y en avait beaucoup, des checkpoints, maintenant... chaque quartier, chaque camp est délimité, fermé. Toutes les routes sont fermées par des barrières métalliques qui sont parfois ouvertes, la plupart du temps fermées. Ils sont quasiment sous siège, à tour de rôle, sans compter qu'ils n'ont plus le droit d'aller sur le territoire officiel d'Israël pour travailler. Or, la plupart de ces gens, normalement, travaillent en Israël.
Donc là, c'était important de le signaler, hein. C'est pas seulement la bande de Gaza, mais une offensive sur le reste de ce qu'on devrait appeler la Palestine aujourd'hui, même si on n'entend pas beaucoup ce mot-là dans les grands médias. Alors on a ce fameux problème qui est mis en avant, la question des otages que le Hamas a pris à compter du 7 octobre. On ne parle pas des prisonniers palestiniens qui sont détenus sans jugement. Qu'est-ce qu'on peut dire comme précision sur ces otages du Hamas aujourd'hui, d'une part, mais aussi de ce qu'il en est des prisonniers palestiniens ? Quel est leur statut et quelle est la situation des otages du Hamas aujourd'hui ?
Les prisonniers palestiniens, les détenus palestiniens sont une grande, grande affaire pour tous les Palestiniens. C'est à peu près, par exemple, en Cisjordanie, 20% de la population qui a déjà fait un séjour en prison, dans les prisons israéliennes. Donc, ce qui s'est passé le 7 octobre, quand les otages et les prisonniers de guerre ont été emmenés à Gaza... Ça a été pour tous les Palestiniens de Cisjordanie, de Gaza, de toutes les tendances, un immense espoir de pouvoir faire sortir les milliers de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Et ça, c'était unanime comme point de vue. Après, parce que dans l'histoire, jamais les prisonniers n'ont pu, les prisons n'ont pu être vidées des prisonniers qui sont coincés dans ces prisons, sauf par échange d'otages.
Alors, des prisonniers, je dois le rappeler, qui sont pour la plupart détenus sans jugement. Donc, ce n'est pas des gens qui ont été jugés à partir de ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas de jugement en ce qui les concerne pour la plupart d'entre eux, y compris un certain nombre d'adolescents. Alors, c'est peut-être oui. De mauvais goût, mais... qu'est-ce qu'on peut dire aussi des otages du Hamas, puisqu'on on a entendu parler de femmes, d'enfants. Effectivement, oui. Présenté comme ça, c'est tout à fait révoltant.
Donc les civils israéliens emmenés par les groupes résistants palestiniens ont, d'après ces groupes, été tous sortis au moment de la trêve, donc échangés chacun... Je ne me rappelle plus combien chacun avait droit à tant de prisonniers libérés. Ceux qui restent aujourd'hui, d'après ces groupes, sont des prisonniers de guerre. C'est-à-dire que ce sont des militaires, des personnes armées qui ont été prises sur le champ de bataille. Israël conteste ce fait en citant les femmes, comme quoi ce seraient des civils. Les groupes rétorquent que c'est des femmes, mais elles étaient militaires quand même, comme on sait. L'armée d'occupation israélienne compte beaucoup de femmes. Les femmes en Israël font 2 années de service militaire quand les hommes en font 3.
D'accord.
Il y a eu des tentatives d'effacer le fait que ces femmes étaient militaires et de les faire passer pour des civils.
D'accord. Donc là, on n'a plus de... En tout cas, plus d'enfants qui sont en otage dans la bande de Gaza, mais reste encore le problème des adolescents palestiniens qui sont détenus, eux, sans jugement.
Bien sûr. Et on avait, le 7 octobre, un peu moins de 5000 prisonniers palestiniens en Israël. On en a aujourd'hui à peu près 10 000.
Donc on a un gros souci de ce côté-là. Alors, j'en viens à la position de la France et la position des autres pays dans ce conflit, puisque on se souvient sans doute que la France avait une position originale et écoutée au Proche-Orient dans le temps jadis. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas eu depuis une modification de la position de la France par rapport à la question du Proche-Orient? Est-ce qu'elle n'est pas alignée aujourd'hui sur celle des États-Unis, ou est-ce que la France a encore une voix écoutée et originale par rapport à la situation dans cette région?
Alors, jusqu'à une certaine période, la France faisait des efforts pour relayer les décisions de l'ONU, exiger d'Israël de respecter les décisions de l'ONU, lui rappeler qu'il ne fallait pas poursuivre sa colonisation de la Cisjordanie. Elle avait toujours des positions assez claires là-dessus. Quand il se passait des choses comme la colonisation ou des tentatives de s'installer un peu plus à Jérusalem, notamment à Jérusalem-Est, la diplomatie française faisait toujours des remarques assez sèches à Israël. Aujourd'hui, la France s'aligne beaucoup plus sur le point de vue israélien, relaye beaucoup plus son point de vue, sa propagande, et on en arrive à des situations où manifester pour les Palestiniens est interdit, critiquer le sionisme est interdit, des choses assez étranges qui se passent en France, en Allemagne encore pire.
Donc la position de la France a évolué dans le mauvais sens. Hein. On se souvient de Chirac et de son coup de gueule quand il voulait serrer les mains en Palestine, où il avait remis les choses un peu à sa place. Et depuis nos différents présidents de la République s'alignent de plus en plus sur la position états-unienne, on peut le dire comme ça. Alors, c'est pas vrai pour tous les pays du monde, puisqu'on a vu dans les médias que l'Afrique du Sud avait pris une décision particulièrement importante ces jours-ci. Est-ce que tu peux nous en dire plus, et à propos de la position de l'Afrique du Sud, et est-ce qu'elle est isolée sur cette position, ou est-ce qu'elle n'est pas soutenue par d'autres pays sur la planète?
Alors, l'Afrique du Sud a opté pour une position extrêmement noble de demander l'arrêt de ce massacre terrible qui se passe à Gaza. Il a cherché par tous les moyens comment faire arrêter ce massacre, et il s'est dirigé vers la Cour de justice internationale qui est pour dénoncer le non-respect de la convention la convention signée par beaucoup de pays qui est censée empêcher l'occurrence de génocide dans le monde. Donc, il a porté ce dossier au CJI en dénonçant les actions d'Israël sur Gaza, comme quoi c'est un génocide en cours et qu'il risque de continuer.
Alors l'Afrique du Sud qui pose auprès de la Cour pénale internationale la question du génocide en demandant à cette Cour pénale internationale d'intervenir, d'agir, en tout cas de se positionner. Est-ce que l'Afrique du Sud est isolée sur ce sujet ou est-ce qu'elle est soutenue ?
Alors, l'Afrique du Sud a récolté une immense popularité dans le monde grâce à cette démarche qui est auprès de la Cour de justice internationale. À la Cour pénale internationale, c'est des avocats, des individus qui ont porté plainte, mais ce n'est pas pareil. À cette Cour de justice, ce sont les États qui se manifestent. D'autres États se sont joints à elle après le dépôt du dossier. On a la Bolivie, le Brésil, la Malaisie, la Jordanie. On a, je crois, la Lituanie. En tout cas, il y a le groupe des pays arabes à l'ONU, le groupe des pays musulmans, ça représente énormément d'États. Et surtout, une popularité auprès des populations du monde qui est énorme. Énorme. Et la démarche de l'Afrique du Sud est d'autant plus forte qu'elle est très symbolique. C'est le pays au monde qui a le mieux lutté, qui a obtenu sa décolonisation d'une manière assez impressionnante. Et la situation de l'apartheid d'Afrique du Sud ressemble énormément à l'apartheid en cours actuel en Palestine-Israël.
Oui, on a effectivement de grosses similitudes entre l'histoire de l'Afrique du Sud et l'histoire de la Palestine. On peut faire un certain nombre de comparaisons. Alors, c'est un peu le mot de la fin. Maintenant, on est en France, on voit bien que bon, le gouvernement est quand même pas, notre gouvernement est quand même pas le plus efficace pour obtenir un cessez-le-feu immédiat. Déjà, ce serait déjà la première étape, et trouver une résolution, je dirais, pour la paix de façon durable. Qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que citoyens, puisqu'il y a quand même des initiatives dont on parle peu, mais il y en a quand même, y compris dans notre région. Peut-être de terminer là-dessus.
Alors d'abord de dénoncer ce silence, cette complicité des États européens. Alors pour ce qui concerne la Grande-Bretagne et les États-Unis, on peut parler de participation au génocide, hein, avec du conseil militaire, des militaires qui sont dans les conseils de guerre, des armes qui sont offertes, des fronts qui sont ouverts aux alentours pour empêcher les pressions sur Israël. Au niveau de l'Europe, on a une complicité morale, on a une vente d'armes qui continue, on n'a aucune sanction qui n'est prise contre les Israéliens. Et donc, les manifestations qui continuent en France chaque semaine, chaque instant. Il y a un grand mouvement de boycott dans le monde, des entreprises qui investissent, non seulement investissent en Israël, mais investissent dans les colonies illégales de Cisjordanie, et certaines entreprises qui font des dons à l'armée israélienne, qui les soutiennent matériellement et moralement. On a par exemple, pour les entreprises concernées en France, on a Carrefour. On a pas mal de chaînes de malbouffe comme McDo, Starbucks, Burger King. Il y a pas mal d'entreprises. Pour l'instant, en France, l'accent est mis sur Carrefour. Alors, je signale, hein, moi, personnellement, je boycotte.
Des appels à manifestations réguliers, par exemple à Montauban, tous les samedis à 11h. Il y en a également à Toulouse, il y en a à Albi, il y en a à Gaillac, des manifestations. Des appels à boycott. Et donc, là, on l'aura bien compris, c'est la mobilisation citoyenne qui fera que, pour ce qui nous concerne, on pourra faire évoluer les positions, et notamment celles de notre gouvernement français. Je remercie Saloua de toutes ses explications. On n'a pas voulu faire trop long et on a voulu aller à l'essentiel, mais j'espère que les explications, vous les avez maintenant et je vous dis à bientôt et merci à Saloua d'être venu dans le studio.
Merci à vous.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Clébus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, bien sûr. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour. Oh.